Aujourd'hui dans cet épisode, nous partons courir très haut, très vite et nous allons revoir quelques croyances sur l'alimentation sportive. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce nouveau podcast avec Happy Runs, apiculteurs passionnés pour la course à pied et amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point si important et si complexe, la nutrition, et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Aujourd'hui, notre invitée est Vanessa Morales. Je ne sais pas où sera Vanessa quand vous écouterez cet épisode, mais vous pouvez vous dire qu'elle grimpe quelque part, très haut et probablement très vite, tout en portant les couleurs de la Ligue contre la sclérose en plaques. Avec Vanessa, nous allons parler de son parcours, de ses ascensions et de ses défis qui vont l'amener jusqu'à 8000 mètres cette année, le Manaslu, 8156 mètres, dont nous avions parlé avec Steven Le Yarrick dans un épisode précédent. Et nous avons aussi beaucoup parlé du Kilimandjaro, point culminant de l'Afrique avec ses 5895 mètres. Un sommet vraiment particulier pour elle. Cet été, elle va accompagner un athlète atteint de la sclérose en plaques qui va le gravir avec un exosquelette. Et le Kilimandjaro, c'est aussi pour elle, la tentative de record du monde pour le grimper et le descendre en moins de 10 heures et laisser une trace dans sa discipline. Un record qui ne s'est pas passé vraiment comme prévu et qui s'est transformé en une incroyable histoire humaine avec son guide Ronald, et Vanessa va nous raconter tout ça. Et bien entendu, pour faire tous ses exploits, Vanessa a besoin de carburant. Et vous allez être probablement très surpris, car Vanessa a particulièrement travaillé sur cet aspect et son alimentation ne ressemble pas vraiment à celle que l'on pense. C'est pas celle que l'on voit dans les livres d'endurance ou qui figure dans l'imaginaire, vous savez, les fameuses pasta party et compagnie. Vous allez découvrir le surprenant petit déjeuner, par exemple, qu'elle a ingurgité avant de grimper le Kilimandjaro, ainsi que son ravitaillement à mi-course. Elle nous parle justement de l'entraînement qui lui permet de faire ça, de ses stratégies aussi sur certains sommets. Et c'est un sujet que nous creuserons beaucoup plus dans un futur épisode avec justement la personne qui l'accompagne dans cette démarche. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, accrochez-vous, respirez un grand coup, on part grimper avec Vanessa Morales. Allez, c'est parti. Bonjour Vanessa.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Plutôt bien. Je suis dans mes montagnes, il y a le soleil, voilà, tout va bien.
Alors, tes petites montagnes, elles sont où? Parce qu'à l'accent, on peut s'en douter, mais elles sont où tes montagnes?
Elles sont à Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales.
Ah, mais ça me change. Alors d'habitude, j'ai toujours des Bretons, j'ai été un peu parti dans l'Est, etc. Je crois que c'est l'une des premières fois que je pars comme ça dans les Pyrénées.
Ah ben bienvenue alors.
Bon, j'ai envie de dire que c'est un terrain propice par rapport au type d'aventure que pour lesquelles tu t'entraînes et que tu réalises.
Oui, c'est vrai que là, j'ai la chance d'être entourée de montagnes. Alors on va pas très très haut, puisqu'on va jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Ou légèrement plus, mais voilà, il y a du dénivelé assez rapidement et c'est ce que je recherche.
Alors, tu dis pour toi, c'est pas très très haut. Alors, pour beaucoup de gens, c'est déjà très haut, 3000 mètres. Mais pour toi, ouais. Tu vas nous dire pourquoi tu dis que c'est pas très haut. Je vais te laisser te présenter. Je sais pas comment tu te présentes exactement d'ailleurs. Comment tu te définis?
Je le sais pas trop moi non plus. je suis originaire donc des Pyrénées-Orientales, de Font-Romeu. Je suis issue du patinage artistique. En fait, j'ai été en sport-études patinage pendant quelques années. Suite à un syndrome des loges, un problème, voilà, j'ai dû arrêter le patinage. Et en fait, depuis, je me suis mise à courir, grimper, mixer un peu toutes ces disciplines. Alors, à côté de ça, je suis infirmière. Et là, je m'oriente sur les pathologies liées à l'altitude, puisque mes projets visent la haute altitude de plus en plus. Et puis voilà, après je suis une passionnée. Je pense que dans le milieu sportif, je suis une indisciplinée. J'aime bien dire ça. Voilà, parce que je suis ni traileuse, ni alpiniste, ni grimpeuse. Je fais tout. Et avec tout ce que j'arrive à mixer, je me régale et ça me correspond, quoi.
Oui, mais c'est vrai que c'est difficile de te positionner parce que quand tu regardes un petit peu les sommets, les choses que tu fais, le défi que tu tentes, finalement, oui, on ne sait pas trop dans quoi te classer comme catégorie.
Hors catégorie.
Alors, on va le dire quand même, on va te donner un petit peu... moi, j'ai regardé j'étais sur ta page Facebook tout à l'heure. On voit la liste des sommets et des projets. Ça grimpe haut quand même.
Ouais, ça commence. Ça commence. En fait, je crois que c'est un peu le problème. Alors, chez les coureurs, il y a parfois cet effet de je fais 30 bornes, puis 40, puis 50, puis 100, puis 130, et puis voilà. Et moi, je vis un peu la même chose avec l'altitude, c'est-à-dire que j'ai fait 3000, 4000, 5, quasiment 6000 sur le Kili. Et puis là, je vais chercher au-dessus, et c'est vrai que mon gros projet, c'est un 8000. mais tout en maintenant en fait une approche en course à pied parce que j'ai ce besoin de courir qui est pathologique, je pense. Et donc voilà, j'essaie de faire des treks d'approche en courant et puis après, avec l'altitude, on peut pas jouer, donc c'est la nature qui choisit à quel rythme on monte. Mais voilà, ouais. Il y a pas mal de projets qui arrivent.
Alors, avec une caractéristique en plus, c'est que tu as une... je sais pas si c'est ton objectif, en plus de battre des records de vitesse, sur certains?
En fait, objectif, oui et non, parce que c'est surtout de courir et de m'éclater. Là, par exemple, je rentre de Grèce, où il y avait plusieurs choix de parcours sur le Mont Olympe. Et en fait, moi, j'ai fait la reco. Par exemple, on est arrivé le lundi, le mardi, j'ai été faire une reco, donc j'ai fait le sommet une première fois. Et sur cette reco, je me dis, waouh, il y a un couloir là, magique, hein. Hyper engagé, hyper vertical, enneigé, tout ce qu'il faut pas. Mais ce couloir, il m'a donné envie d'y aller. Et donc, j'ai redessiné un petit peu le tracé en me disant, on va rallonger un peu, mais par contre, on va prendre ce couloir est. Voilà, on avait deux guides qui nous disaient, attention, c'est dangereux, machin, nanana. Puis au final, voilà, c'est mon tracé. Et j'aime fonctionner comme ça. Donc, oui, si le chrono est là, tant mieux. Puis s'il n'est pas là, voilà, la performance, c'est bien, mais c'est pas mon objectif premier.
Oui, alors je te disais ça parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu, quand j'ai fait les recherches, ton aventure au Kilimandjaro, il y a eu beaucoup d'articles quand même mentionnant que finalement ton record de montée était pas homologué, mais
Ouais.
finalement, tu étais quand même arrivé en haut.
Ah oui, en haut et en bas dans une journée quand même, puisqu'on l'a fait vraiment au final sur le global, sur le chrono global de Ronald, qui lui ne stoppait pas sa montre, on le fait en 12 heures. Moi je l'ai en 10 heures, un peu moins de 10 heures. Mais ouais, voilà, mais là encore une fois, ce chrono, moi j'aurais jamais été à l'aise avec un chrono validé alors qu'il y avait ses pauses, même si c'était pas du tout des pauses récup, bière et massage, hein. Au contraire, c'est vraiment casse-pattes et hyper fatigant parce qu'il fallait porter Ronald, enfin supporter Ronald, le pauvre qui tenait plus. Il faisait froid, moi je suis un diesel en plus, donc du moment où je m'arrête, pour relancer, c'est hyper dur. Enfin bon. Donc oui, voilà, la perf elle est pas là, mais l'histoire elle est super belle. C'est une nouvelle amitié là, avec Ronald, où on a vécu un moment de flip, hein, parce que pendant un moment moi je me suis dit on va rester là tous les deux. Puis voilà, ça finit bien et je pense que je retiendrai davantage cette histoire-là qu'un simple chrono entre guillemets.
Oui, alors on va rappeler quand même qui est Ronald, parce que ceux qui ont pas lu les articles, ils se demandent qui
Ah
c'est
ouais.
ce Ronald.
Ouais, Ronald, c'est le guide qui m'accompagnait en fait sur l'ascension rapide du Kili. Ouais. Et il a fait un malaise à 5 300 mètres. Et on a vraiment frôlé la catastrophe parce que, évidemment, encore une fois, j'avais décidé un tracé un peu plus compliqué que les autres. Donc j'ai été chercher la Western Bridge, qui est la voie la plus technique du Kili. Sauf qu'une fois qu'on est engagé sur cette voie, les secours peuvent plus redescendre à nous, les hélicos montent pas. Enfin bon, donc on était deux face à cette montagne pour se sortir de la cata, quoi.
D'accord, sacrée aventure et c'est vrai. Puis après j'ai vu une photo. Alors tu l'as dit, c'est qui se finit bien, qui est une, tu t'en parles sur ta page Facebook, je mettrai le lien où finalement sa famille était super heureuse aussi que tu l'aies ramenée.
Ouais. C'est vrai que, en fait, moi, j'avais pas la notion de tout ce qui se passait quand on est dans l'urgence comme ça. On se sort d'une galère et après, moi, j'étais passée à autre chose. Et en fait, quand on est redescendu déjà sur la montagne, l'info, elle avait fait le tour du Kili. Donc, tout le monde était au courant qu'il y avait un guide en galère sur la Western Bridge. Malheureusement, la plupart des gens qui ont été en galère sur cette voie, ils sont plus là pour le raconter. Donc, pour eux, je redescendais toute seule, quoi. Et quand je croisais en fait les gens de la montagne et les amis de Ronald et tout, ils pensaient que Ronald n'était plus là. Et moi je leur disais, vous inquiétez pas, il est fatigué, mais il arrive, il était derrière, quoi. Hein. Et donc là, c'est vrai qu'il y avait une émotion très très forte. Et à l'arrivée en fait au village, j'ai été accueillie après dans la famille de Ronald. Et pareil, ces gens-là m'ont remercié parce qu'ils le pensaient mort. Enfin, ils pensaient pas qu'il s'en sortirait. Et ouais, c'est là où j'ai pris peut-être conscience que c'était chaud, quoi.
Bien sûr, quand on... Alors moi j'ai vu une vidéo où on voit ton entraînement, c'était un reportage sur France 3, on te voit sur une espèce de machine de torture ou je sais pas quoi là, c'est quoi cette machine là?
Ouais, c'est vraiment une machine de torture. En fait, quand j'ai étudié le parcours du Kili, Ben je me suis rendu compte qu'il y avait un dénivelé de malades en positif et en négatif, puisqu'on prenait 4595 en positif et autant de négatifs, en montant à 5895 mètres d'altitude, enfin 5000, ouais, 5008. Donc en fait, ben mon entraîneur m'a dit l'altitude, tu vas bosser en hypoxie, et puis de toute façon, tu seras obligé de t'adapter. Par contre, au niveau musculaire, il va falloir développer une puissance et une endurance musculaire que tu n'as pas actuellement. Donc en fait, j'ai dû ben voilà, faire énormément de renfos sur ce genre de machine, m'entraîner en intérieur, chose que je déteste. Mais ouais, ça a été une prépa assez particulière pour le kili.
Ouais, alors je mettrai bien sûr le lien vers le reportage de France 3, parce qu'on te voit sur une espèce de machine où en plus tu as l'air un peu plus couché qu'autre chose, donc c'est vraiment pour développer la puissance dans les jambes.
Ouais, ouais. C'est vraiment ça, ouais.
Et après, derrière, c'est quoi? Tu vas dans une salle où par rapport à l'altitude, ou c'est quoi? C'est les formes d'altitude qu'on te simule?
Ouais, voilà, c'est ça, c'est de l'hypoxie. Donc, en fait, on rentre dans une pièce fermée, hermétique, où on diminue l'arrivée d'oxygène. Et donc, ben, ça nous met un petit peu dans les conditions de la haute altitude, en sachant qu'il n'y a pas la pression atmosphérique. Donc, on est en inconfort, mais on ne gagne pas ni en globules rouges, ou c'est pas comme l'entraînement en altitude. En fait, c'est plus s'entraîner dans une zone d'inconfort et du coup, quand on sort de là, on se sent mieux. Mais ouais, ça, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, là, je reprends la même prépa, enfin, alors, un peu différente, mais au Crêpes à Font-Romeu, avec des nuits en hypoxie. On intègre un peu plus d'hypoxie, là, pour le 8000 qui arrive en septembre, quoi.
Et dit comme ça, en fait, on a l'impression que c'est ton métier, que tu fais que ça. Mais tu l'as dit, t'es infirmière à côté, t'as un métier.
Ouais. Alors, là, je suis infirmière à mi-temps. Petit à petit, je décroche un peu parce que effectivement, il y a beaucoup de projets qui arrivent et voilà. Mais le côté infirmier, c'est moi, donc je veux pas le lâcher complètement et c'est pour ça que j'ai envie de me former davantage sur les pathologies liées à l'altitude, parce que ben parce qu'en plus, là encore une fois, je rentre du Népal, j'y étais il y a pas si longtemps que ça et en redescendant du camp de base de l'Everest, on a trouvé un Sherpa inconscient. Enfin voilà, qu'il a fallu secourir et tout ça. Et je me dis, ben, j'ai la chance d'avoir ce diplôme et il me suivra partout. Donc je tiens à cette casquette infirmière. C'est important.
Tu vas. Alors, toujours sur ta page Facebook, on voit un petit peu les projets que tu as. Mais il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est que tu cours pour. Tu as une cause pour laquelle tu cours, en fait.
Ouais, depuis plusieurs années, là, je représente la Ligue française contre la sclérose en plaques. En fait, j'ai plusieurs amis assez jeunes qui ont été diagnostiqués et un pote à moi, un très très bon pote à moi, qui courait avec moi en fait à l'époque et cette maladie a fait qu'aujourd'hui, ben, il court plus ou beaucoup moins en tout cas. Et en fait, je dis tout le temps qu'il m'a filé ses jambes et que maintenant je cours pour lui. et voilà, c'est vrai que c'est un peu ma force à chaque fois d'amener ce drapeau sur les hauteurs. Et en plus, surtout, ça ouvre des projets. Et alors, il y a des voyages par procuration pour les personnes à mobilité réduite qui, voilà, je ramène des films et du coup, je me dis, ben, j'arrive peut-être un peu à les faire voyager. Et après, ça inspire des gens comme Julien, par exemple, que j'accompagne sur le Kilimandjaro, là, en août. C'est un garçon que j'ai rencontré il y a 2 ans. Et en fait, suite à mes projets, il m'a contacté. Il m'a dit, voilà, est-ce que tu voudrais me préparer et venir avec moi sur le Kili? Et je trouve ça tellement magique, en fait, parce que, voilà, c'est des objectifs qui sont grands. Et je pense que dans la vie, on a tous besoin d'objectifs et de carottes un petit peu pour avancer, quoi.
Oui, alors, en plus, il faut le dire, c'est qu'il est atteint donc, de sclérose en plaques et donc il sera équipé d'un exosquelette, en fait. Hein.
Ouais, c'est ça. En fait, là, il fait des tests avec l'exosquelette. Donc, on va s'entraîner ensemble. On va faire le pic du midi, là, prochainement, début juillet, avec son exosquelette. Et l'idée, c'est qu'il fasse l'ascension avec. Donc ouais, moi je trouve ça bien plus grand qu'une perf sportive où on va chercher un chrono ou un machin où on a la chance de s'entraîner tous les jours. Enfin, là c'est du grand quoi.
Oui, alors je fais un petit clin d'œil parce que j'ai fait un épisode avec la team Ruban Bleu qui est aussi sur cette notion sur la sclérose en plaques. Et c'est vrai que c'est une maladie qui finalement on n'en a pas conscience, mais c'est la maladie qui fait le plus d'handicapés adultes, jeunes adultes notamment. Derrière les accidents de voiture. Et donc, c'est une cause qui est beaucoup plus large qu'il y paraît. Et quand on en parle un petit peu à droite, à gauche, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées, en fait.
Oui, voilà, énormément, oui.
Ce genre de défi, là, moi, je me dis, mais comment tu prépares ça? Alors, déjà, comment tu as l'idée? Enfin, tu vois, par exemple, le Mont Olympe. Comment tu as eu l'idée d'aller faire le Mont Olympe?
Alors des fois, ça peut être, je me lève le matin et puis clink, il y a une ampoule qui s'allume et waouh, ce sommet, fais voir qu'est-ce qui a été fait, machin, je pourrais le faire. Donc là, j'appelle tout le monde, mon entraîneur. En général, ils ont très très peur quand je leur dis j'ai pensé à un truc. Ils aiment pas trop ça. Mais ben là, le Kilimanjaro, c'était parti d'une jeune femme justement qui a la sclérose en plaques, qui rêvait de faire le Kili et elle m'avait dit je rêve de le faire, mais avec toi. Donc on avait commencé à préparer le projet et il se trouve qu'elle a fait des poussées et puis elle a eu des problèmes perso, donc elle a annulé elle le projet commun qu'on avait. Et en 3 jours, moi, je me suis dit, bon, bah, attends, je vais le faire pour elle. Il faut que je trouve un moyen de le faire pour elle. Elle, avec ses capacités physiques, on l'aurait fait en 10-12 jours. Ben, moi, je regarde, hop, je vois ce qui a été fait. Je me dis, ben, je me le fais dans la journée. Voilà. Donc, ça, c'est, oh, boum, une idée. Moi, je dis souvent, une idée, une action, boum, un projet. Voilà. Et Olympe, c'est quand je suis rentrée du Kili. Il y a un journaliste grec qui m'a dit, est-ce que je peux faire un article sur toi? J'ai trouvé ton aventure, grandiose, machin. Donc on échange sur ça et puis je lui dis vous avez quoi comme sommet? C'est quoi le sommet le plus haut machin? Puis je dis, là, je regarde, hop, le Mythikas, Mont Olympe. Je lui dis ben, je viendrai vous voir. Il me dit oh, ben, quand tu veux, on t'attend, voilà. Et donc je me suis dit pareil, fais voir ce qui a été fait. Bon, il y avait que des mecs qui s'étaient collés à ce chrono jusqu'au sommet. Et en redescendant par le couloir, il n'y avait pas forcément puisque ben, Kylian l'a fait lui, mais dans l'autre sens, il a grimpé le couloir est. Bon, Kylian, il survole, il survole le Mont Olympe, hein. Mais voilà, ouais, c'est un peu. Là après, bah, j'ai des idées comme ça. J'ai un pote en Pologne, bah, je me suis dit, ok, je vais aller faire le Rizzi en courant. C'est le plus haut sommet de Pologne. Enfin, il n'y a pas trop de règles chez moi.
D'accord. Et alors je vois le pic Lénine.
Ouais, le pic Lénine. Ça, c'est un 7000. Et en fait, c'était de me dire, avant d'aller sur un 8000, je veux quand même goûter à 7000. Donc, je l'ai casé entre plusieurs projets. Bah, là, pour le coup, je suis plus trop sûre d'y partir parce que les conditions là-bas, elles sont un peu particulières. Donc, voilà, je croise les doigts, mais c'est pas sûr que je le fasse, celui-ci. Et le Pic Lénine, c'était vraiment pour dire, bah, je vais m'entraîner à 7000 et, parce que le 8000, je le fais sans oxygène. Donc, voilà, j'aime bien procéder quand même intelligemment, quoi, entre guillemets.
Oui, alors le pic Lénine, il est au Tadjikistan, hein, c'est ça?
Oui, voilà. Et là-bas, en ce moment, c'est pas trop la fête.
C'est ça, oui. Et ensuite, donc derrière, le but, c'est d'enchaîner donc sur le fameux 8000.
Ouais, le Manaslu.
Alors d'ailleurs, le Manaslu, c'est un petit clin d'œil parce que dans un épisode précédent, j'ai reçu Steven Le Yarrick et
Ah oui.
il est passé au pied en vélo, lui.
Ouais, il est fou, il fait des trucs fous à vélo, ouais, j'adore. Et ben ouais, le Manaslu, ça c'est pareil, c'est un projet en fait, alors de très très longue date. J'ai toujours dit, un jour je ferai l'Everest. Puis au final, bon, ben en vieillissant, l'Everest, oui, bof, peut-être que je le ferai un jour, mais pas par la face sud, enfin voilà, bon. Et le Manaslu, il est super joli. Et puis, je me suis renseignée aussi, et c'est vrai que pour un premier 8000, bah, c'est peut-être bien de commencer par un Manaslu ou un Shoyu, un des sommets qui est pas très, très technique. Et en partant au Népal, là, récemment, j'ai rencontré pas mal de monde. Et j'ai échangé avec Tenji Sherpa, qui est l'ancien binôme de Ueli Steck, un grand, grand alpiniste qui, malheureusement, n'est plus de ce monde. Et en fait, Tenji, c'est un super coureur. Et quand on a échangé tous les deux, on s'est dit, bah, écoute, le Manaslu, on va se le faire, mais en mode sport. Donc là, pour septembre et octobre, voilà, on veut vraiment se préparer, faire un truc assez sympa sur le Manaslu, et bien sûr en intégrant de la course.
Alors, le Manaslu, il fait 8163 mètres.
Ouais.
Tu dis, on va intégrer de la course. Je n'ai aucune idée de comment tu intègres de la course dans un. Parce que, en plus, c'est une aiguille, quoi. Enfin,
Ouais.
c'est une sacrée pointe.
Intégrer la course, c'est sur le trek d'acclimatation. C'est vraiment comme là, par exemple, quand j'ai fait la vallée du Khombou, j'étais avec Sophie Lavaux, une super alpiniste aussi, qui est vraiment une pointure en Himalaya. Ben, en fait, on faisait le trek d'acclim et moi, le soir, j'allais courir à des altitudes jusqu'à 6000, 6005. Je me suis régalée à aller faire mes footings ou mes entraînements. Et là, c'est vraiment bah, l'idée de dire le trek, on va essayer de le faire selon les réactions physiologiques, hein, évidemment, parce que passer 5000, ça commence vraiment à changer, donc on s'adapte. Mais tant qu'on peut, on va courir. Et pour la redescente, on va courir. Après, À 8000 mètres, même à 7000, on ne court absolument plus. C'est un pas, une respiration, quoi. C'est vraiment, surtout sans ox, voilà, il faut s'adapter. Là, il n'y a pas de notion de perf, c'est aller toucher le sommet et redescendre vite, quoi.
Alors moi en plus, alors y a le dernier truc, on va pas, je continue sur tes projets parce que j'ai toujours la liste là. C'est ce défi, c'est cette course là au Mexique que tu envisages en
Ouais.
2022.
Ouais. Alors ça, pour moi, au final, je crois que c'est le projet le plus fou. Parce que je suis pas une ultra-trailleuse, je suis pas une vraie trailleuse, donc oui, je peux courir des kilomètres et des heures, voilà, ça me fait pas peur. Mais un ultra de 190 bornes, 10 000 D+, au Mexique, dans des canyons, enfin, je me dis pourquoi j'ai dit oui. Mais en fait, je suis super contente. C'est l'organisateur qui est venu me chercher et il a été chercher d'autres sportifs. Il y a des élites et des aventuriers. Et en fait, ce qui me plaît beaucoup dans cette course-là, c'est le côté aventure où on va rencontrer les Indiens, les fameux Tarahumara, quoi, et les meilleurs coureurs au monde. Voilà, donc l'idée, c'est de voir si on arrive à se coller un peu à eux. Mais en tout cas, de profiter de ces gens-là et du pays, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est ils sont très connus hein, parce qu'ils s'alignent et puis qu'ils courent tous en fait, même en robe, etc. Et que
Oui,
c'est vraiment
c'est ça.
une manière de vivre en fait, j'ai envie de dire de courir comme ça pour eux.
Vraiment, pour eux, c'est un quotidien. Et puis, je pense que ce qui est intéressant derrière, c'est qu'ils ne courent pas pour la même chose que nous. C'est-à-dire que nous, on a tendance justement souvent à être sur la performance, aller chercher, je suis le plus fort, ou aller chercher toujours plus haut, plus loin, machin. Eux, ils courent pour des raisons qui leur sont vitales. C'est pour manger, c'est pour faire vivre leur famille, enfin. Et je pense que ces valeurs-là, elles sont super importantes, quoi. Nous, on part avec les dernières chaussures de course parce que sinon, on a une petite ampoule ou il n'y a pas assez de renvoi ou machin. Eux, ils sont en sandales. Enfin, je pense que c'est une leçon de vie et moi, j'adore ce genre de choses parce que ça nous remet tout le temps un peu à notre place et je pense que c'est important. Hein.
Oui, alors pour ceux qui se posent des questions, c'est que ils ont été aussi rendus célèbres par Born to Run, qui en a
Ouais.
beaucoup parlé, parce que tu disais sur la course pieds nus. J'ai même vu un documentaire où il montrait une jeune fille qui courait et je ne sais plus,
Lorena,
ouais, et je sais plus quelle marque lui envoie des
elle sera là.
baskets. Elle sait pas quoi en faire.
Eh ben ouais. Ben ouais, c'est clair. Et au final, je pense qu'ils ont moins de bobos à la con que nous. Enfin, déjà, je pense qu'ils mangent pas comme nous. Et puis, ils sont plus sur les appuis naturels. Donc, ouais, à voir quoi, à voir. Mais j'ai hâte de les rencontrer.
Oui, alors ce fameux documentaire Lorena, d'ailleurs, elle explique bien, hein, pour aller à l'école, il faut faire je sais plus combien de kilomètres, etc., pour aller acheter
Ouais.
des choses. Ils partent courir à travers la montagne pour aller chercher ce que nous, on va chercher au bout de la rue, j'ai envie de dire.
C'est ça.
C'est vraiment incroyable. Et puis elle gagne les courses, et puis on voit en plus dans quelle capacité elle a se mettre dans la difficulté en plus, hein, quand elle a gagné sur
Ouais.
certaines courses, hein.
Ouais. Je pense qu'ils n'ont pas la même notion de la douleur aussi. Ils s'écoutent sûrement un peu moins que nous, je sais pas.
Bon, alors maintenant qu'on a fait le tour de tous ces projets, bien sûr, on se dit, bon, à quoi tu carbures? Tu sais, on est sur un podcast pour la nutrition, je te dis, mais quand même, il faut. Comment ça se passe? Alors, par exemple, tu vois, sur Kilimandjaro, tu gères comment la partie alimentation pour avoir du carburant pour monter puis pour descendre?
Alors, moi, je mise beaucoup, beaucoup sur l'hydratation. Parce que manger dans l'effort, j'ai toujours peur des troubles digestifs et puis j'ai rarement faim, en fait. L'exemple du Kili, j'ai déjeuné à 5 heures du matin, je me suis fait une bonne salade de fruits, j'ai quand même mangé des œufs et je suis partie avec ça et dans la journée, j'ai mangé un morceau de pastèque. Et en fait, le reste du temps, j'ai bu. Donc je tourne aussi au plasma marin pour tenter ben, d'aller jouer sur l'hydratation profonde. Quand j'ai besoin de sucre, ben, je vais prendre du miel ou des dattes ou voilà. En fait, j'essaie d'être le plus naturel possible parce que ben, tout ce qui est transformé, malheureusement, ça donne envie. Voilà, hein, c'est quand on est gourmand, je pense qu'on a tous envie de taper dedans, mais ben, pour les tendons, pour les blessures et tout, c'est catastrophique. Hein. Donc voilà, moi je reste sur le simple. Et puis, ouais, tout ce qui est le plus naturel possible et la flotte, ouais.
Alors c'est drôle parce que quand même, tu es la troisième personne qui me parle de plasma marin en 15 jours.
Ah ouais. C'est la mode.
Et je me dis, mais tu le mets dans une boisson, tu le mélanges avec quelque chose d'autre, comment tu le consommes?
Ben en fait, il y a des dosages, mais moi, j'ai toujours une bouteille de plasma et en fait, je le mets dans l'eau parce que le boire comme ça, c'est en hypertonique, c'est impossible. Mais ouais, non, mais c'est vrai que moi, j'y ai pris goût. Ça fait quoi, à peu près un an que je tourne à ça. Et au début, je disais, mais le mec qui m'a mis ça dans les mains, il est fou, il s'appelle Thierry Schmitt, c'est un super gars qui me suit justement au niveau nutrition et tout. Et puis, il m'a dit, insiste un peu, tu verras. Et effectivement, c'est vrai qu'en insistant, ben on prend l'habitude en fait. Même le matin, je prends mon petit verre de plasma. Et... Ouais, c'est une habitude, quoi. Boire de l'eau de mer.
Ouais, boire de l'eau de mer, c'est une habitude. Tu vois un effet, en fait, tu vois quel type d'effet, en fait, depuis tu prends du plasma comme ça?
Alors, moi, je pense qu'il y a le plasma, puis il y a le cumul de tout ce que j'ai modifié dans ma vie. En fait, quand j'ai commencé le sport, j'avais 4 ans et de toute gamine, j'ai entendu mange des féculents, mange des pâtes, voilà, avant les courses et tout. Donc, je pense qu'on a été pas mal formaté à ça. Et au final, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, bah, Thierry, jour est arrivé. Première fois où je l'ai vu, j'ai dit je veux plus jamais le voir. Parce que il enlevait de mon quotidien tout ce que j'aimais, quoi. Donc, forcément, je dis non, non, il est fou. 35 ans d'habitude, enfin, ou 37 quand je l'ai rencontré. Non, 35, c'est ça. Je me suis dit, j'y arriverai jamais. Et en fait, petit à petit, je retournais le voir. Et puis, lui, il bosse vachement avec le stress oxydatif. Donc, il nous fait des petits prélèvements de temps en temps où il me dit, bah, là, t'es pas à l'équilibre. Et bah, effectivement, boum, j'ai une blessure. Ou des fois je l'appelle, je lui dis Thierry, j'ai un problème comme en ce moment là au niveau du tendon d'Achille. Il me fait un prélèvement, il me dit bah ouais, regarde, stress oxydatif au taquet, t'as pas suffisamment de défense pour répondre à ça, machin. Donc en fait, je me rends compte que quand je suis sérieuse sur ce qu'il me recommande, ben je suis moins blessée, je récupère super bien, il y a beaucoup moins de fatigue générale. Et dès que je fais des écarts, ben je peux être sûre que je le paye de suite, quoi. Donc, le plasma, ouais, sur la récupération, je pense que c'est super intéressant.
Alors là, les gens quand même qui écoutent, ils se disent qu'est-ce que c'est que le stress oxydatif, comment ça se passe, etc. Est-ce que tu pourrais nous en donner une petite, deux, trois mots dessus pour que les gens comprennent un petit peu là comme ça, puis après ils iront faire des recherches, puis on mettra des liens complémentaires.
Ben, en fait, quand on fait du sport tous les jours, on impose quelque chose de pas naturel, entre guillemets. Enfin, le corps, il a rien demandé, et il n'a pas envie de subir ce que nous, on lui demande. Donc, on fait du lactique, on fait. Le stress oxydatif, ça va jouer sur tout ce qui est inflammatoire, en fait. Et en fait, pour être à l'équilibre, eh ben, il faut qu'on ait. Alors, je sais pas trop comment l'expliquer avec des mots simples. Plus on va être acide, par exemple, on va avoir un pH acide et tout, et plus on va, voilà, on va jouer sur les inflammations, maintenir en fait une inflammation. Moi, je sais qu'au tout début, quand j'ai rencontré Thierry, j'étais une blessure. Donc, je savais plus où j'avais mal, tellement j'avais mal partout. Et c'est vrai que, ben, en fait, plus on va bouffer du sucre, par exemple, plus on va stocker les radicaux libres, enfin les trucs, voilà, hyper toxiques. Donc l'idée, c'est de maintenir un équilibre global, et l'équilibre à la base, c'est la flotte, hein, puisqu'on est constitué quand même de plus de 90% d'eau. Donc voilà, on s'hydrate mal. Souvent, on va prendre de l'eau en bouteille en pensant qu'elle est bonne, mais elle est hyper calcaire, ou enfin, il y a tout qui est important, quoi.
Alors, tu dis que quand tu l'as rencontré la première fois, tu n'avais plus envie de le voir parce qu'il t'enlevait plein de trucs que tu aimais bien. C'est quoi les trucs qui t'a fait supprimer?
Bah, tout ce qui est transformé déjà. Donc, bah, le paquet de gâteaux qui faisait plaisir, on l'oublie. Si on veut un gâteau, on se le fait avec des dattes, de l'avocat, du miel, du citron, enfin voilà. Bah, les féculents aussi. Donc, bah, le pain, par exemple, il m'a dit, OK, tu es une mangeuse de pain. Si de temps en temps, tu as envie de te faire plaisir, tu vas acheter un pain noir, ou on évite les farines blanches trop sucrées. Voilà. Et après, l'eau, il m'a fait filtrer l'eau. Et c'est vrai que ça aussi, ça joue pas mal sur tout, quoi. Sur la fonction rénale, par exemple. Et puis, je reviens sur les blessures, hein, parce que vraiment, moi, c'est depuis que je considère tout ça que je suis moins blessée, quoi. Donc, ouais, les sucres blancs, les. Après, je suis passée aux fruits, aux légumes crus. Il me fait manger cru parce que ben, le légume cru, il est hyper hydraté. Et nous, quand on le fait cuire, ben, on lui enlève toute la flotte. Donc, il n'y a plus trop l'intérêt. On ne bénéficie pas de tout ce que le légume a à proposer. Enfin, ouais, il y a plein de nouvelles habitudes à prendre. Et une fois qu'on y est, ben on se rend compte que c'est chouette, quoi.
Mmh.
Et on apprécie davantage les écarts.
Oui, j'allais dire oui, parce qu'il te reste quand même quelques écarts.
Ouais, bah, il le sait, Thierry, sur ça. Et puis en plus, il est pour, quoi. Voilà, il y a pas. Faut pas devenir fou. Moi, je pense que c'est un plaisir de manger. Hein. Pour moi, perso, voilà, je suis très gourmande. Donc, ben, après, c'est comme tout. Si on veut aller à l'objectif sans se faire mal, et ben, faut se donner les moyens d'y arriver. Et voilà, c'est quelques contraintes, mais au final, ça paye et c'est intéressant.
Bon, et alors, en plus d'être l'une des personnes qui me parle de plasma, tu es l'une autre des personnes qui me dégomme les féculents comme ça. La mythique pasta party d'avant marathon, d'avant
Ouais.
ultra, etc., c'est un truc qui sert à rien en fait.
Ben en fait, on va stocker du sucre. Oui, alors ça sert à tous nous regrouper, à s'éclater, à manger des pâtes, voilà. Mais après, au niveau physiologique, ça reste du sucre. Donc le sucre, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va venir caraméliser nos cellules et créer de l'inflammation. Et voilà. C'est dur à l'intégrer, moi. Comme je te disais, je mange des pâtes depuis l'âge de 4 ans. Et là, d'un coup, on me dit, mais Vanessa, stop, t'arrêtes les pâtes, quoi. Mais ouais. Après, le sucre, c'est pareil. Prendre un sucre rapide, ben, on va le cramer dans les minutes sur l'effort. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à prendre du sucre ou alors est-ce qu'on va essayer de maintenir un équilibre et d'apprendre à notre corps aussi, ben, de bosser un peu en low carb, d'aller chercher dans les ressources, d'aller chercher un peu plus loin? Là, j'ai fait un stage récemment, en fait, où on partait le matin à jeun, on se tapait 25 bornes en courant. Et puis après, on allait se faire une grosse salade de fruits. Enfin, alors oui, ça peut paraître un peu drastique, mais au final, moi, je me suis rendu compte que j'avais un gros coup de mou vers le 18e kilomètre ou 20e. Et puis après, poum, je repartais et j'en aurais fait 20-25 de plus, quoi. Je pense que c'est vraiment des habitudes et que, ben, encore une fois, moi, ça me ramène un peu au raramuri. Parce que je me dis, eux, bah, ils vont. Je pense pas qu'ils aient des barres de céréales plein les poches quand ils courent et donc ils sont habitués, ouais, à aller chercher dans leurs propres ressources et ça fonctionne, quoi.
Oui, alors tu vois, moi, dans ma tête, j'ai encore ce truc-là qui est resté, une petite case qui est restée ouverte, sur ton alimentation du Kilimandjaro. Donc tu m'as dit, t'as mangé avant de partir à 5h du matin une salade de fruits?
Ouais, une grosse salade de fruits avec des œufs. C'était vraiment un bon petit déj. Ouais, et après, à 4000, il y avait l'équipe donc qui m'attendait, et là, on m'a tendu un énorme morceau de pastèque, et ça a été le meilleur de toute ma vie. Mais ce morceau de pastèque, c'est vraiment la seule chose que j'ai eu envie de croquer et de mâcher. D'ailleurs, Ronald, sur tout le parcours, n'arrêtait pas de me dire, tu manges pas, faut que tu manges, faut que tu manges. Il me mettait des barres de céréales dans les mains, mais j'avais pas envie de manger. Et lui, au final, il a trop mangé. Et à 5003, il nous a pas fait un mal aigu. Il a fait une ischémie digestive. Sauf que l'ischémie digestive à 5000, bah, c'est la merde. Parce que pour reperfuser l'intestin, c'est hyper compliqué. Et en plus, bah, quand on est à haute altitude, bah, en fait, le corps humain est bien fait, hein, et le sang va privilégier les organes nobles pour aller oxygéner, bah, cœur, poumon, cerveau. Et quand on demande à un intestin de bosser, alors que la priorité, elle n'est pas là, bah lui, il essaie de bosser et boum, ça fait une ischémie et on peut en mourir, quoi. On meurt d'une ischémie.
Oui.
Donc, au final, je me suis dit, ouais, j'ai peut-être moins mangé que lui et peut-être que j'ai eu des coups de mou, c'est sûr. Mais au moins, mon intestin était tranquille.
Oui, alors l'ischémie, pour en dire un mot, c'est ce que les coureurs du dimanche quotidien, etc., connaissent aussi à la fin des sorties, hein, quand
Ouais.
l'intestin se remet en route et que tout d'un coup, ça, on a besoin d'une envie pressante d'aller aux toilettes, quoi.
Ouais, voilà, c'est un peu le descriptif. Ouais, après, en fait, ouais, ça peut être super dangereux. Ça fait des nécroses et là, c'est plus bon, quoi.
Ouais, non, parce que, en fait, un jour, j'ai discuté, j'ai dit, il faudrait qu'on fasse un sujet vraiment spécifique sur cette partie-là, parce que ça pose plein de problèmes, finalement, les problèmes digestifs.
Ouais.
Sur les courses, c'est une des plus grosses causes d'abandon, parce qu'on pense aux blessures, aux chutes, à plein de choses, mais en fait, il y a énormément de gens qui abandonnent à cause, justement, de maux de ventre,
De troubles digestifs,
troubles digestifs, d'hydratation aussi, de choses comme ça.
ouais.
Est-ce que tu as vécu d'ailleurs des moments comme ça sur tes différentes aventures où tu t'es rendu compte, tu as fait des grosses erreurs d'alimentation, des trucs t'avançaient plus, t'étais pas bien à cause de cette partie alimentation?
Mais en fait, ça m'est arrivé une fois, mais c'était sur du vélo de route. Donc, je partais sur un gros truc, faire une 200 bornes avec des potes hyper affûtés. Et je m'étais dit, c'était il y a quelques années, je vais tester ces petits gels. Alors, je vais pas citer de marque, mais voilà. Et là, mais catastrophe, quoi. Une envie de dégueuler, et puis même les jambes coupées, quoi. J'ai eu vraiment le gros, gros blanc. Voilà. Donc, oui, ça m'est arrivé. Et ça m'est arrivé d'ailleurs une deuxième fois sur une course où j'avais pas eu le temps de déjeuner. Et juste avant la course, donc j'arrive à la bourre, j'épingle mon dossard en travers, enfin voilà. Et je me dis, je vais prendre quelque chose avant de courir. Et là, je gobe deux pâtes de fruits. Je pars à fond, donc départ de la course dans les minutes qui suivent. Je pars à fond et au troisième kilomètre, en fait, j'ai fait un KO. Parce que j'ai fait une hyperglycémie. Donc là, le pancréas, il dit, oh là là, elle est folle, elle nous envoie trop de sucre. Donc il envoie de l'insuline, il m'a foutu en hypo. Et ça, c'est quelque chose qui arrive aussi régulièrement. Les gens qui se sucrent à fond, le corps, il dit, il y en a trop, il y en a trop, je sais pas quoi en faire, j'ai pas besoin de tout ça. Donc, s'il peut stocker, tant mieux, mais s'il peut pas, c'est l'insuline qui, voilà. Et des hypos, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Oui, c'est fou parce qu'en fait on a plein de mauvais réflexes. On se dit oui, avant d'aller courir, il faudrait que je prenne un peu plus de sucre, faut que je prenne des féculents, faut que je me charge en alimentation. Et là, t'es juste en train de nous dire bon, je me fais bon ta grosse salade, elle devait être très grosse. Tes œufs, je sais pas combien t'en avais pris d'œufs, mais
Moi, j'en prends deux ou trois le matin, ça dépend, mais.
ouais, c'est même pas énorme par rapport finalement à l'aventure de 12 heures qui te reste derrière.
Ouais. Après, j'ai beaucoup d'eau. Et ça, voilà. Et j'ai toujours, toujours une poignée de dattes dans une poche. J'ai toujours un petit peu de miel ou des choses qui vont m'apporter de l'énergie à un moment donné si j'en ai besoin. Mais là, sur le Mont Olympe, par exemple, j'ai couru avec Aurelio Valentino, qui est un superbe athlète, un ultra-trailer monstrueux. Et en fait, lui, il a ses habitudes de manger régulièrement. Et il m'a proposé de temps en temps, voilà, de grignoter et tout. C'est vrai que j'ai eu des gros coups de mou. En plus, on avait 35 degrés, enfin, il faisait super chaud et tout. Mais au bout d'un moment, j'ai dit Aurelio, stop, j'ai envie de vomir. J'ai pas cette habitude de m'alimenter comme ça. Alors que lui, là, et que ça fonctionne très bien. Mais bon. Après, on est tous différents aussi, hein. C'est pas, je pense qu'il n'y a pas vraiment de vérité. Mais en tout cas, la vérité sur les aliments transformés, elle est indéniable et elle est prouvée, au niveau médical. Donc, ouais, il faut l'accepter.
Tiens, et tant qu'on y est, est-ce qu'il t'a fait arrêter les laitages, les yaourts, le fromage, toutes ces choses comme ça aussi?
Évidemment. Alors, évidemment, mais par contre, il sait aussi que j'en ai besoin. Pour moi, le fromage, c'est la vie. Le fromage de chèvre, voilà, tout ce qui est un peu plus facile à digérer. Après, ça va être de temps en temps. Les yaourts, par exemple, je suis une grosse, grosse mangeuse de yaourts. Il m'a appris à faire mon lait d'amande, des graines de chia. Je prépare tout ça que je mets au frigo une nuit. Le matin, j'ai mes super yaourts. Je mets des fruits, je mets du chocolat dedans, je mets ce que je veux. Et c'est vrai que ça y est, j'ai retrouvé mes yaourts. Alors, ils sont moins toxiques, entre guillemets, pour mon corps. Et puis, j'ai quand même ce plaisir de manger mon yaourt, quoi. Voilà.
Alors là, tu vois, moi, je veux bien que tu nous partages la recette, tu nous expliques comment tu fais, parce que moi, ça m'intrigue, parce que me passer des yaourts, c'est pas si facile que ça. Alors, on a des yaourts au lait de coco, des choses comme ça, mais c'est quoi ta recette alors?
Donc tu achètes des amandes les meilleures possibles, hein, voilà. Tu les mets à tremper une nuit. Le lendemain, tu fais ton lait d'amande, donc tu mixes tes amandes et tu en extrais le lait. Et ensuite, tu mets des graines de chia à l'intérieur. Après, c'est à toi de mettre ce que tu veux dedans, hein, des framboises, des bananes, des pommes, voilà. Et tu mets ça au frigo toute la nuit. Tu mélanges tes graines de chia tout dans un saladier où tu fais tes petits pots, moi. Pour psychologiquement me dire, je mange des yaourts, je le fais dans des pots en verre. Et je mets ça au frigo et j'ai mes petits yaourts, quoi.
Non
C'est
mais
facile à faire, en plus.
oui, c'est une super astuce. Non, mais en plus je te dis ça parce que à la maison ma femme fait le lait d'amande, on a des graines de chia aussi, enfin on a tous les trucs comme ça. Mais c'est vrai que pour moi dans ma tête je me dis ouais, ça ressemble pas vraiment à mon yaourt, ça me ressemble pas, tu vois, ma fille elle voulait des petits Suisses encore ce matin et
Ah
tout.
ben. Ah, ça y ressemble pas, je te l'accorde.
Non mais après c'est ce que je disais avec un invité précédent, c'est que ça paraît des changements qui paraissent extrêmement importants, mais en fait on découvre de nouvelles saveurs, de nouveaux trucs, et en fait on découvre aussi des nouveaux goûts et que c'est bon.
Mais oui, carrément. Nous, quand on fait des stages là, parce qu'en fait, on est plusieurs athlètes à être suivis par cette personne-là, par Thierry, et il nous fait des desserts, mais putain, moi, j'ai jamais goûté des trucs aussi bons, alors que c'est du naturel, c'est du. Après, lui, il a les idées de recettes. C'est vrai que moi, quand je propose à mon fils pendant une semaine mes mousses au chocolat, à l'avocat, il peut plus les voir, mais voilà, faut avoir des idées, quoi.
Oui, mais là, je dois dire que la mousse au chocolat à l'avocat, c'est quand même. Et j'en ai parlé aussi dans l'épisode précédent, c'est drôle.
Bah, tu
Sur les histoires de texture, parce que nous aussi, on a testé ça. Ou l'autre jour, j'ai fait un gâteau à la. Comment s'appelle? À la patate douce, un gâteau au chocolat à la patate douce, un
vois.
fondant qui était super bon. Bon, bien sûr, on n'a pas trop idée comme ça. Mais c'est vrai qu'on découvre de nouvelles choses. Il y a tout un univers à découvrir. Et qui, en plus. Bah, comme tu le dis, ça aide aussi par rapport à la prévention des blessures, par rapport à la performance même, j'ai envie de dire, parce que ça donne aussi un bon carburant.
Bah, c'est de la bonne énergie, hein, tout simplement.
Alors, ça, c'était sur la partie donc Olympe, tu nous as dit, sur le Kilimandjaro, d'accord. Mais alors, maintenant, tu vois, pour viser 7000 et 8000, est-ce que tu as des stratégies? Est-ce que tu es obligé d'utiliser des stratégies qui sont un petit peu différentes ou comment tu vois les choses pour l'instant? Alors, t'y es pas encore allé, donc.
Bah, alors là, honnêtement. Bon, déjà, j'ai eu l'aventure au Népal, là, de quelques semaines, où on a été quand même jusqu'à l'icefall de l'Everest et tout, où ben, je me suis rendu compte que les Népalais avaient leurs habitudes. Et leurs habitudes, elles sont pas malsaines, en fait. C'est des gens qui mangent beaucoup de légumes, bon, très peu de viande. Par contre, ils mangent beaucoup de riz. Donc, le riz blanc, ben, pas bon. Mais bon, voilà, là-bas, oui, j'en ai mangé parce que c'est du dalbat tous les jours. On n'a pas trop le choix, il y en a partout. Mais voilà, pour le 8000, non, je ne me prends pas la tête, en fait. Je me dis que je vais m'écouter. Je sais qu'on crame énormément de calories. Donc, c'est dans la prépa du 8000 où, oui, je vais être super sérieuse pour pas arriver blessée là-bas. Mais sur la montagne, bah, s'il y a du dalbat matin, midi et soir, je mangerai du dalbat matin, midi et soir, quoi. Voilà.
Ouais, c'est ce que me disait Steven aussi, hein. Il disait lui au bout d'un moment, et ça le rendait même malade, hein, comme on le voit dans son documentaire, où il y a des jours où il ne le digère pas du tout, il est sensible de ça, etc.
Après, moi, pour le moment, ben, ça s'est bien passé. J'ai bien digéré le dalbat. Par contre, c'est les épices. Parce que moi, je leur avais dit, j'ai vraiment du mal avec les épices. Et donc là, c'était bon, ben, ça, c'est l'assiette pour Vanessa. Je me dis, vous vous êtes trompé, j'avais les larmes aux yeux et tout. Non, ça, c'est pas épicé. Et les autres, ils pleuraient deux fois plus que moi. Donc je me dis, oh là là. Donc ça, faut s'y faire aussi.
J'ai envie de me dire, te demander, est-ce que tu as une préparation alimentaire, tu sais, alors, bon, t'as dit, il faut tester les choses, toi, tu t'es découvert, donc par le biais de l'expérience et de l'entraînement, tu sais ce qui va bien pour toi, mais est-ce que tu as, avant une telle aventure, dans les semaines qui précèdent, une alimentation particulière pour, je sais pas, je sais pas si on peut faire du stock, si on peut préparer l'organisme d'une telle ou telle manière, ou tu changes rien?
Non, honnêtement, je me prends pas la tête avec ça. Après, alors, il y a plusieurs avis quand on va sur des 8000 comme ça. Il y en a qui me disent, ouais, ben, il faudrait que tu prennes un peu de poids pour avoir de la réserve, parce que c'est vrai qu'on perd beaucoup. Hein. Moi, rien que là, au Népal, pourtant, j'ai pas fait un sommet, à part le Kalapatar, mais qui est pas technique du tout et tout ça. J'ai perdu pas mal de poids parce qu'on puise, quoi. Il fait froid, l'altitude et tout, donc on vient chercher dans les lipides, dans le stock. Mais après, je suis super amie avec Adam Bielecki, qui est un super himalayiste polonais. Et lui me dit, mais non, c'est des conneries. Enfin, voilà, oui, tu vas perdre du poids, mais va pas prendre 20 kilos pour les subir. Après, il faut les monter, quoi. Voilà. Donc, il y a plusieurs avis. Moi, je me dis que jusqu'à présent, j'ai 38 ans maintenant. La montagne, bah, j'en fais tous les jours. Alors, des 8000, je suis novice, hein, je découvre le truc. Mais je me dis, c'est toujours passé au feeling. Donc, je pense qu'il faut pas changer. Voilà, je veux pas prendre le risque de m'imposer quelque chose, je vais vraiment faire au ressenti et puis voilà quoi.
Je t'en regardais le Kalapatar, là, ça fait quoi? Oh, c'est un petit, il est pas haut en fait, hein, 5 550.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, il n'est pas du tout technique. Et d'ailleurs, je l'ai fait en courant, en redescendant. J'ai trotté pour monter. Vraiment, Il est en face de l'Everest, par contre. Ça offre une vue magique sur le glacier de l'Everest et sur le sommet de l'Everest. Ouais.
Non, mais tu sais, je suis en train de penser aux Bretons, parce que j'ai des invités bretons qui disaient, bah, nous, quand on trouve une petite pente pour monter, ou alors dans les Landes, tu sais, qui sont à plat constamment, et toi, tu dis, ouais, c'est un petit sommet, il fait 5550 sur 20. Tu vois, vu d'en bas, ça paraît quand même extrêmement élevé.
Ouais, j'ai plus trop la notion, je crois. C'est...
Même, tu vois, je vois les gens qui vont se partir sur qui font des sommets des Alpes à 2300, dire, ah, j'arrive plus à respirer, etc. Et c'est là, toi, tu te dis, mais moi, j'arrive à courir. Jusqu'à combien tu cours, tu m'as dit, en altitude?
Ben là, jusqu'à 6000, ça se passe bien. Alors, évidemment, le rythme, il est vraiment en dessous. Et puis, je m'accorde des pauses que je ne m'accorde pas à 2000, par exemple. Mais ouais, jusqu'à 6000, j'arrive à trotter.
Et tu trottes à quelle vitesse, en fait?
Ben, je ne sais pas, honnêtement. Sur le Kilimanjaro, par exemple, il y a le film, là, en ce moment, qui tourne sur un festival de trail, sur le Nature Trail Film Festival. Et j'ai été à Paris là, la semaine dernière, puis j'ai revu le film et tout, et je me rends compte qu'à un moment donné, on est au sommet, donc à 6000 quasiment. Et en fait, je cours, mais à balle, et je suis super bien et tout. Et il y a Ronald derrière, je l'entends, qui dit « slow down ». Mais vraiment, il insiste sur le ralenti. Et je sais pas à combien je cours, mais en tout cas, je sens pas ce handicap vraiment de me dire « waouh, j'ai du mal à marcher ». Quoi. Donc, on verra à 8000, mais à 8000, ce sera pas la même quand même. Je pense pas courir.
Oui, puis après, il y a aussi la déclivité, je sais pas comment dire, l'inclinaison de la pente aussi qui conditionne aussi beaucoup les choses.
Oui. Et puis là, l'altitude, de toute façon, passer. Alors, je sais pas au-dessus de 6005 comment ça se passe, hein, mais je pense qu'on se calme assez rapidement, quoi.
Ouais. Comment ça s'appelle tes projets là comme ça, donc on a vu un petit peu vers quoi tu veux aller déjà, est-ce que t'as des choses, tu disais tout à l'heure l'Everest ça me tente plus tant que ça, enfin je sais pas trop, t'as des sommets quand même comme ça dans un coin de ta tête, tu dis ouais celui-là quand même, même si tu te dessines un peu au feeling sur des choses, il y a des choses quand même qui tentent plus que d'autres.
Oui, carrément. Là, par exemple, au Népal, il y a l'Amada Blanc. L'Amada Blanc, c'est un 7000, hein, c'est pas un 8000, mais c'est un sommet qui est tellement beau. Et en plus, pour moi, il a toute une histoire, puisque j'ai un très bon ami d'enfance qui était mon premier amoureux, qui malheureusement s'est tué en montagne. Et c'était son projet. Donc moi, là, j'ai eu la chance de le voir, ce sommet, pendant plusieurs jours. Et je me suis dit, waouh, mais celui-là, il faut que j'aille le voir. Et la deuxième raison, c'est que Ama d'Ablan, c'est le collier de la mère, donc de la maman. Ama, c'est maman. Et moi, j'ai perdu ma maman il y a 12 ans. Et donc là, je me dis, ce serait vraiment d'aller chercher un hommage pour les deux personnes importantes. Et après, l'Everest, en fait, le côté sud, là, l'Icefall est assez impressionnant. Il est très casse-gueule et il y a beaucoup, beaucoup d'accidents. Mais en même temps, il est super beau, il donne envie. Là, je l'ai vu. Et je me dis putain quand même ouais, ça donne envie. Mais après j'ai beaucoup discuté avec Sophie Lavaux et Sophie elle m'a dit côté nord il est pas mal l'Everest parce qu'il est moins technique mais t'es plus engagé au niveau physiologique parce qu'on est plus longtemps au-dessus de 8000 mètres, donc l'Everest maintenant à nouveau il vient un petit peu par là et me dire peut-être qu'un jour mais après oui il y a des sommets que j'ai déjà en tête et que je vais aller chercher, ça c'est sûr.
Et est-ce que tu as fait la petite montagne qui s'appelle le Mont Blanc, tu sais, là?
Ouais. Ouais, il est joli, le Mont Blanc. Mais voilà, le Mont Blanc, par exemple, c'est... Alors, en altitude, ça va. Mais c'est une montagne, mine de rien, qui demande un minimum de pieds montagnards ou d'habitude et tout ça. Donc oui, je l'ai fait, ouais, le Mont Blanc.
Oui, tu l'as fait, c'est ce que...
Oui.
Bon, je te demande pas si tu viens en Auvergne, mes petites montagnes à moi. On monte à 1800 quand même, hein. Attention, faut pas rigoler.
Ouais,
Ah oui, tu vois, on monte à 1800. Et puis, si des fois, tu peux venir en plein été et il fera un temps vraiment de la neige et tout, tu vois, même en plein été. Donc, je peux trouver des conditions un peu difficiles si tu veux, tu vois.
Je peux prendre les skis, ouais. Non, mais après, j'ai un délire là qui s'est greffé il y a un an, en fait, et un peu plus d'un an. Et j'ai envie de faire un tour d'Europe et de faire les points culminants de chaque pays d'Europe. Mmh. Donc, ça se fait, hein, c'est pas nouveau, c'est pas... Voilà. Mais en courant, tant que possible. Et donc, si c'est le point culminant chez toi, je peux très bien aller y faire un tour. Pourquoi pas?
Bah écoute, pourquoi pas? Écoute, c'est sûr que ouais, tu peux même. Alors en plus, l'avantage c'est que tu peux même y monter presque en téléphérique, tu vois. Il te restera pas grand-chose à faire.
Ah
C'est
ouais.
oh non, mais
Ah ouais,
attention.
carrément.
Non, mais je dis
Prudence.
ça en blaguant. Mais ceux qui écoutent, parce qu'il y en a qui écoutent, le dernier trail d'été du Sancy, pour le citer, a été couru dans des telles conditions de climatique avec du vent, de la neige, etc., que justement, ils n'ont pas pu passer au sommet. Ils ont été obligés de détourner,
Ah ouais.
etc. Et notamment Leïla qui participait avec, ils étaient venus la bande Apeyron. Ils n'ont pas pu voir cette partie-là parce qu'il y avait trop de vent. C'était une grosse tempête et c'était sur le trail estival. C'était même pas l'hivernal, tu vois.
Ah ouais.
Donc,
Oh là
alors,
là.
il était en septembre, tu vois. Je crois que c'était fin septembre. Donc, ça peut arriver qu'on ait des conditions un petit peu comme ça. Mais c'est sûr que
Ouais.
quand on regarde les altitudes, on n'est pas tout à fait dans les mêmes niveaux d'altitude. Toi qui cours à 6000, c'est sûr que les montées à 1800, bon, tu devrais pouvoir courir jusqu'au sommet.
À moins qu'il y ait tempête, hein. Non, non. Mais après, alors oui, j'aime la haute altitude et tout ça, mais c'est vrai que parfois, je me fais peur sur des sommets bien plus bas, qui sont beaucoup plus techniques. Voilà, donc l'altitude, en gros, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors oui, bien sûr, au niveau physiologique, ça demande une exposition qui est monstrueuse, hein, mais bon.
Qu'est-ce que je voulais te demander sur le. Il y a quand même une question, tu vois, que les gens sont en train de se poser là. Ils écoutent et ils se disent, mais comment tu fais pour organiser, pour pouvoir faire tout ça? Comment tu t'arrives à. T'as des sponsors, t'as des aides, t'as des gens comme ça qui. Comment ça fonctionne en fait? Parce qu'il y en a plein de gens qui voudraient faire de l'aventure, tu vois, partir sur des sommets, etc. Et comment on peut faire comme toi?
Alors, oui, j'ai des sponsors, mais pas que. C'est-à-dire que souvent, moi, j'essaie de faire échange de bons compromis. Donc là, par exemple, pour l'Himalaya, je suis infirmière, j'ai été sapeur-pompier pendant 15 ans. Donc j'ai intégré une association qui s'appelle Ice Himalaya. Et en fait, je fais de la formation aux gestes de premier secours. Donc je forme les guides locaux et eux, en contrepartie, m'initient l'himalayisme. Et donc, en fait, dans tout ça, ben, on s'y retrouve tous, au niveau financier, au niveau, ben, expérience personnelle et tout ça. Donc, voilà, c'est vrai que j'aime fonctionner comme ça. Et puis, je raconte des histoires. Et ce qui m'aide, enfin, je raconte des histoires. En fait, c'est ma vie qui est mise en image et j'ai beaucoup de chance avec ça parce qu'il y a quelqu'un un jour qui s'est intéressé, à mon image, Patrick Foch, qui m'a dit, non, mais attends, tu fais des trucs de débile, il faut le filmer. Et je vais en faire des films. Et en fait, ces films-là, plus ça va et plus ça prend de l'ampleur et ça m'aide évidemment pour les projets qui arrivent derrière. Mais après, souvent, ça me coûte aussi de ma poche, mais je le sais. Et puis après tout, je me dis, ben ma grande, c'est ton délire à toi. Donc voilà, c'est pas tout gratos, mais je le veux bien, quoi.
Et tout à l'heure, tu parlais de ton fils qui faisait un peu la tête avec la mousse au chocolat ou à l'avocat pendant toute la semaine. Il en pense quoi, ton fils, quand il doit partir sur des sommets comme ça?
Ben, en fait, Mathéo, il est aussi fou que moi. Il commence à courir mieux que moi, donc ça m'énerve. Mais il aime bien me suivre, en fait. Sur le Kilimandjaro, il était là, il devait faire l'ascension, mais il s'est blessé une semaine avant, donc il est resté au village avec moi. Après, par exemple, ben, sur le Manaslu, là, sur mon 8000, il va probablement venir jusqu'au camp de base. Donc pas plus haut, parce qu'après, quand même, c'est hyper exposé, dangereux, et là, c'est maman qui veut pas. Mais voilà, il est aventurier aussi et du coup c'est vraiment un moteur pour moi.
Ouais, c'est cool. Donc tu peux imaginer aller faire des
Ouais,
sommets avec lui et tout.
carrément. Oh, c'est un bonheur.
Eh ben écoute, je te remercie beaucoup pour cette discussion qui était super sympa. J'ai appris des trucs et puis vraiment on a. Mais quand je vois ton menu qui t'attend quand même, parce que là Olympe c'était au mois de mai,
Ouais.
donc juillet théoriquement ça aurait dû être le pic Lénine. Bon ça à voir. Et après c'est Kilimandjaro, donc en août, en accompagnant justement cette personne qui est malade, et puis après le Manaslu, et après, ah non,
Après, je
après t'as une
pars
petite
sur
pause,
l'ultra, ouais.
ouais, après t'as une petite pause
Ben
quand même.
après, ça va être de la prépa spécifique pour les raramuris, ouais. Et demain, là, je pars sur l'Aneto, donc le plus haut sommet des Pyrénées, pendant 3 jours. J'accompagne une association aussi, et donc on va se faire l'Aneto. Voilà.
Eh bien écoute, je te remercie beaucoup, c'était passionnant de t'écouter. Tiens, tu disais, t'as des films, on peut les regarder où tes films, comment on peut les voir en fait?
Alors, En ce moment, mais du coup, je ne sais pas si ce sera toujours d'actualité quand le podcast sera diffusé, mais on tourne pas mal sur le Nature Trail Film Festival. Donc, il y a 19 dates en France. Et après, il y a France TV qui avait acheté l'histoire du Kilimanjaro, qui a fait une web série. Donc, ça s'appelle Record à cœur. Et on peut le trouver sur Internet. Et après, les autres films, puisque du coup, il y en a eu quelques-uns, puisque j'ai couru en Finlande et tout ça. Donc, c'est sur Vimeo, chez Patrick Foch. Voilà, là, on peut visualiser pas mal de films qu'on a fait sur mes runs bizarres.
Et donc toi, si on veut te suivre, alors t'as une page Facebook, ça sur lequel tu racontes un petit peu tout ça.
Oui, et j'ai un site internet aussi maintenant. Il faut juste que je regarde l'adresse.
Alors moi j'ai vanessamorales.fr. Est-ce que je suis bon?
Ouais, voilà. Ouais, bah, ça doit être ça. Voilà, il est tout nouveau, donc on y travaille, mais comme ça permettra de suivre un peu toutes les aventures pour les gourmands et friands d'aventure. Ouais.
Alors, je peux pas te laisser partir quand même, parce que j'ai failli oublier la question, mais on a un petit peu parlé déjà d'alimentation. Est-ce que tu as un petit péché mignon, tu sais, un petit truc comme ça dans tes aventures, je sais pas, un truc comme ça qui te fait plaisir, sur le terme en alimentation ou en boisson, tu vois, un truc qui. Enfin voilà, un petit péché mignon.
Moi, je suis très, 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 très chocolat. Mais alors, c'est une drogue, quoi. Chocolat noir, hein, évidemment. Donc, là, c'est pareil, je suis briefée. Thierry a tenté de me faire manger le cacao, là. Tu sais, les espèces de graines.
Les faits,
Et
ouais.
là, j'ai dit non. Là, j'ai dit, c'est le seul truc que tu n'arriveras jamais à me faire manger. Donc, ouais, j'ai quand même un petit péché mignon, c'est le chocolat. Hein.
Ouais.
C'est une catastrophe.
J'imagine que par contre, il y a un pourcentage minimum, il t'impose, il dit attention,
Ben. Ouais.
c'est combien?
Ouais, ça va jusqu'à 80, allez, ça va. 80.
80, t'as pas droit de. Ah, t'as même pas droit au 70, oh là là, dis donc.
Ouais, c'est trop sucré, 70. Il m'a dit, ah, ton sucre, non, 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 quoi. Et encore, c'est pas tous les jours, c'est le petit plaisir, voilà.
Mais
Ouais.
ouais, j'ai dire un truc, c'est que ces fameuses fèves là, moi aussi je croyais, la première fois que j'en ai acheté, je pensais que j'en arriverais jamais à manger. Et en fait, j'ai fini par m'y habituer un jour. Alors, j'en ai pas racheté trop
Ah
depuis, mais à bout d'un
oui.
moment, tu sais, tu commences à me prendre un petit peu goût de temps en temps, etc. Mais je suis d'accord avec toi, c'est sûr que quand on aime le chocolat,
Ça vaut
ça
pas le
remplace pas le
chocolat.
chocolat. Et là, je crois que rien ne remplace le chocolat. Et ça, c'est. Voilà, moi, c'est mon avis
Non.
personnel. Hein, tu es d'accord avec moi?
Je valide. Je valide, ouais. C'est clair.
Et ben voilà, et ben on va finir sur ce mot de la fin. Nous validons que rien ne remplace le chocolat. Je sais pas
Voilà.
d'ailleurs si t'arrives à en amener sur tes sommets ou si tu ton petit carré t'attend quand tu
Ouais, c'est
redescends.
compliqué.
Ouais.
Ouais, en général, c'est la récompense, quoi. On dit, allez, si tu cours bien, tu auras droit à deux carrés de chocolat. Ouais. C'est la carotte.
Eh ben écoute, je te souhaite des belles aventures. J'imagine qu'il y a un gros entraînement pour arriver à bah, préparer tout ça. Hein. Je mettrai tous les liens vers les vidéos parce que le truc de série de France 3 dont tu as parlé, justement, je l'ai mis dans mes liens. Tu sais, je voulais partager. C'est là que j'avais vu
D'accord.
aussi les fameuses petites machines, etc. Ça fait partie des
Ouais.
séries qu'il y a dessus. Donc je mettrai tous les liens pour qu'on puisse se découvrir. Et puis peut te suivre et puis t'envoyer des encouragements et puis regarder comment tout ça se passe. En tout cas, je te souhaite bah, des belles aventures. Merci beaucoup pour le temps passé, pour tous les conseils, etc. Voilà, il faut essayer, hein. Il y a des trucs qui vont peut-être un petit peu surprenants, hein, comme le plasma marin, etc. Ça fait partie des petites choses à découvrir. Tiens, une autre invitée m'a parlé du jus de cornichon. Il t'a pas fait essayer ça?
Ah non. Ah, j'ai pas eu droit au jus de cornichon. Je vais venir en parler, je vais dire, c'est quoi ce bordel? Comment moi j'ai pas de jus de cornichon?
Alors, je te le dis, c'est Cécile Bertin qui m'a parlé du jus de cornichon, qui avait découvert ça avec
D'accord.
des coureurs américains. Et disait, ben voilà, ils ont leur petit truc, mais qui serait pas mal, tu vois, comme petite astuce,
Ah ben
notamment par rapport à l'hydratation et aux sels minéraux
Ouais.
dont tu as besoin. Voilà, tu vois, c'est.
Ok. Du chocolat, on passe au cornichon, quoi, mais pas de problème.
C'est aussi ça l'aventure, hein, l'aventure culinaire. En tout cas, voilà, sur ces belles paroles, mais on va boucler maintenant l'épisode. Merci encore Vanessa pour le temps passé avec nous, pour tous
Merci
les
à
conseils,
toi.
pour ton sourire. C'était un régal de discuter de tous ces sujets avec toi. Et puis nous, on se retrouve bah, très 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 bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel aventurier, un nouveau sportif, pour parler de cette thématique autour de la nutrition et du sport et du plaisir d'aller gambader, d'aller bouger avec une bonne alimentation. Merci Vanessa.
Avec plaisir. À bientôt.
Voilà, c'est fini. Mais si vous êtes encore ici, c'est que vous avez adoré cet épisode. Alors aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant, par exemple sur Instagram, @podcastsportetnutrition, et en laissant votre avis et notre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.